Oui, vous avez remarqué, j'ai pas fait de phrase conclusive comme je le fais quand c'est pas moi qui chronique, parce que c'est un peu gênant de dire merci Louis pour cette très belle chronique. mais vraiment, allez voir la salle des profs, son bouche à oreille est vraiment très bon, puisqu'il était encore programmé 4 fois par jour au Comédia dans sa 3e semaine d'exploitation. Prends ça, Madame de Sévigné, ce qui est pas mal. Mais bon, trêve de plaisanterie, vous n'êtes pas venu pour m'écouter parler, donc sans plus attendre, penchons-nous sur Il reste encore demain. Tiens, encore à domani. J'espère que le centre des langues de l'ENS apprécie quand même mes efforts, ouais, voilà, d'italien et d'allemand. C'est un premier film de 2h09, réalisé, comme je l'ai dit tantôt en début d'émission, par Paola Cortellesi. Là j'aurais peut-être pas dû, actrice, humoriste, en fait personnalité médiatique déjà bien établie dans le champ cinématographique italien. Il reste encore demain, je vais m'en tenir au titre français, est un film qui prend place à la fin du printemps 1946, dans l'atmosphère effervescente de la sortie du fascisme, de l'atmosphère effervescente de l'occupation américaine, l'atmosphère effervescente de la campagne pour la République italienne. Mais de tout ça, Delia, l'héroïne incarnée par Cortellesi elle-même, qui est sur tous les plans, semble n'avoir guère que faire. Elle semble être prise plutôt, elle, dans le temps hors de l'histoire, du quotidien familial, où son mari la bat vraiment beaucoup, où elle galère à amasser de l'argent dans divers petits boulots à travers Rome, où sa famille est globalement toute pourrie. On va suivre ces quelques semaines dans sa vie, et c'est tout un paysage qui se dessine autour d'elle, tout un quotidien, encore plus qu'une intrigue concrète, même s'il se passe beaucoup de choses. Sa fille qui s'apprête à se marier, son ancien amour qui l'invite à fuir Rome avec elle... C'est un film qui a eu un succès absolument phénoménal en Italie, où il a attiré à lui 5 millions de spectateurs. C'en est même l'argument commercial en énorme sur l'affiche française. Il a donc dépassé au box-office italien Barbie et Oppenheimer et atteint un niveau qu'un film italien n'avait plus atteint dans le pays depuis La vie est belle de Roberto Benigni. Il est de plus sorti 2 semaines avant le féminicide de Giulia Cecchettin, qui avait choqué tout le pays. La grande émotion suscitée par ce meurtre et le sujet du film, qui tourne vraiment autour de l'émancipation de cette femme battue par son mari, ont conduit Il reste encore demain à être reçu encore plus fortement par le public italien. C'est quelque chose d'évidemment louable, et je trouve, pour commencer par le bien que je pense du film, que sa fin, dont on devra je pense reparler sans trop la dévoiler, vaut vraiment le coup et nous fait relire intégralement le film. Les 5-10 dernières minutes sont vraiment très bien, mais je suis plus en demi-teinte à l'égard des 2 heures qui les précèdent. Formellement, il n'y a pas non plus beaucoup de choses de révolutionnaire. Et on peut un peu vite s'ennuyer face à certains poncifs de la mère Courage, pour le coup, qui endure bravement toutes les infortunes de la vie et qui, par moments, semble être juste un peu une liste à cocher de « oui, mon personnage est dans le sous-prolétariat romain ». Mais, à nouveau... la fin du film est extrêmement puissante, déjoue complètement nos attentes, ce qui me conduit plutôt à le recommander. Claire, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
Alors moi, j'étais un peu mitigée, à vrai dire. Je trouvais que c'était un film qui était très agréable, presque même réconfortant, malgré le sujet lourd, et ça, j'ai trouvé ça assez chouette d'avoir cette touche d'humour comme ça qui revenait assez régulièrement. Et que donc, en résumé, c'était un film assez sincère, mais... Il n'a pas réussi à me convaincre complètement. J'ai trouvé qu'il manquait un peu d'efficacité. Enfin, en fait, qu'il proposait beaucoup de choses très intéressantes, mais qu'il n'allait jamais jusqu'au bout, en fait. Et ça, j'ai un peu regretté.
Merci beaucoup, Nathan.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors déjà, je suis un peu... Enfin, je ne connaissais pas trop le background du film. Et du coup, là, je viens d'apprendre à la fois que du coup, l'actrice principale était la réalisatrice et que c'était son premier film. Du coup, je suis encore plus impressionné parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, quoi. Déjà, il y a un très joli titre.
Oui, c'est vrai.
Le titre est vraiment joli.
C'est le titre est vraiment
encore plus en italien, surtout quand c'est toi qui le dis, Lou. Mais... Mais en fait, moi je me suis dit pendant le film que j'avais l'impression de voir un vieux film, mais pas dans le bon sens du terme, alors pas comme je pouvais l'entendre en parlant de Madame de Sévigné la semaine dernière. Alors là, j'avais un peu l'impression de voir un classique, quoi, en fait, même si il y avait en même temps beaucoup de modernité, que ce soit dans le propos ou dans le ton. Notamment la BO et plein d'autres trucs. Et je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de propositions de mise en scène qui sont pas toujours, enfin, sur lesquelles parfois j'ai quelques réserves, mais qui en tout cas sont assez audacieuses. Et en tout cas, moi, ça a complètement marché sur moi. Et j'ai trouvé, comme tu l'as dit, Claire, que c'était très enfin très fort cette espèce d'entre-deux où le film est très est très réconfortant tout en étant très grave et très lourd et chargé. Et ouais, moi c'est une séance qui m'a fait beaucoup de bien. Voilà.
Merci Laura.
Moi aussi c'est un film qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a beaucoup plu. Et justement, moi j'ai pas vu les 2h09 passer pour le coup, je pensais vraiment que c'était un film beaucoup plus court, ça m'a étonnée quand tu l'as dit. Et je trouve aussi que pour le coup il y avait pas mal de propositions de mise en scène qui pour moi étaient très originales et nécessitaient pas spécialement d'aller jusqu'au bout. Pour moi c'était déjà jusqu'au bout entre guillemets, enfin je sais pas trop ce qu'on entend par aller jusqu'au bout. Et en tout cas je sais que c'est un film qui m'a remué et en même temps qui m'a pas donné un violent coup. Enfin, je ne me suis pas pris un coup en plein, enfin, de pleine face, quoi, comme certains films qui peuvent traiter de ces sujets et qui peuvent être un peu traumatisants. Donc c'est un film qui m'a beaucoup plu.
Merci. Ouais, ben, alors il y a pas mal de choses dans tout ce que vous venez de dire. Pour le côté un petit peu pas aller forcément au bout, moi je vois ce que tu veux dire, Claire. C'est un peu moi ce qui me gênait un peu par moment. C'est que je trouve qu'il a des fois un peu un problème de ton aussi, en fait, dans la mesure où... au début, dans sa première moitié, la deuxième moitié est mieux, plus homogène, on va dire, dans ce qu'il semble vouloir dire. C'est que, donc, ouais, dans la première moitié, t'as l'impression, tu sais pas que le film sait pas trop sur quel pied danser, et que tu as parfois des ressorts comiques, mais qui sont pas toujours très bienvenus. Typiquement, en théorie, l'incongruité, l'inattendu génère une surprise qui, parfois, à son tour, génère le rire. Et le premier plan, où donc son mari la gifle sans raison au réveil, tu sais vraiment pas du tout comment le prendre, et ça peut... C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé que ça faisait appel à des ressorts comiques qui étaient étranges, enfin, et pas très très bienvenus. Et alors, il y a aussi, je sais pas, la scène de danse, qui est aussi la scène de violence, où la violence de conjugale est vraiment montrée, mais... médiatisé par cette idée de la danse. Bon, alors j'en avais entendu quelque chose de bien pire que ce qu'il en est vraiment, donc vraiment que c'était malsain et complètement indécent. Non, je trouve pas, mais c'est le côté tu sais pas trop parce que ça va pas forcément. Enfin ouais, c'est un peu. Je vais pas au bout de mes phrases et de fait ça influe un peu sur moi, c'est-à-dire que je ne sais pas trop comment prendre cette scène-là parce qu'en fait c'est à la fois extrêmement tendu et en même temps détendu, mais dans une détente un peu malvenue, c'est-à-dire qu'à la limite, moi j'aurais presque préféré que cette scène-là, tu sois juste hyper mal parce que le sujet est hyper dramatique et il y a une musique qui fait que les personnages sont plus ou moins en train de danser quand lui la frappe et elle tente d'esquiver les coups. Et donc, ouais, c'est un peu dommage parce que les autres moments de tension de vrai drame dont on pourra reparler, ouais, ils sont terriblement mal à l'aise et ça te met effectivement face à la question des violences faites aux femmes. Dans un film qui néanmoins, et là-dessus Laura je te rejoins, tu n'en ressors pas traumatisé, tu en ressors un peu, enfin ouais, vénère contre le système qui est de patriarcal qui est dévoilé là, mais pas en, complètement dans un état de choc qui annihilerait plus qu'autre chose tes émotions.
Moi, par rapport à la scène de la danse, justement, j'avais pas mal entendu qu'il y avait beaucoup de critiques, notamment comme quoi elle était embarrassante, gênante, etc. Personnellement, je trouve au contraire, j'ai plutôt bien pris cette scène. J'ai pas été... En fait, j'étais mal à l'aise, mais j'ai trouvé que c'était bienvenu. Et justement, que ça montrait aussi comment, comme dans la danse, les rituels de la violence s'installaient insidieusement. Et ce que j'ai adoré, c'est que pendant qu'il dansait, il y avait une musique qui s'appelait, j'avais regardé, c'est Nessuno, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et qui parlait d'amour. Et justement, accolé à ces images de tango violent, altérait complètement le sens des paroles qui disait, je l'ai écrit, qui disait « Personne, même le destin, ne pourra nous séparer ». Et justement, ça donnait vraiment un aspect plombant à cette violence, comme si elle était vraiment... C'était une fatalité, quoi, à laquelle Delia ne pouvait pas échapper et à laquelle toutes les femmes ne pouvaient pas échapper. Enfin, n'importe quelle femme qu'elle puisse prendre cette violence, mais... C'est ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, pour le coup.
Ouais, mais je suis d'accord, c'est vrai que le premier plan, moi, je l'ai trouvé très grave, quoi. Enfin, je pense que il est très grave. Et globalement, je trouve que le film est assez fort parce que moi, j'ai pas du tout ressenti cette espèce d'entre-deux où tu sais pas trop sur quel pied il veut danser. Parce que je trouve que c'est effectivement très drôle à plein de moments, mais que les moments où ça dérape complètement, notamment toutes les scènes de violence conjugale qui sont nombreuses en vrai, à ces moments-là, moi, à aucun moment je me suis dit « Ah, je sais pas trop si là elle veut que ça soit un ressort comique ou quoi ». Pour moi, c'était assez clair que ces moments-là étaient des moments qui venaient couper court à cette espèce de comédie de mœurs satirique et au ton plus léger d'autres scènes du film. Et sur cette scène-là spécifiquement dont vous parlez, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, Laura. Je trouve que c'est hyper. C'est assez intelligent. Évidemment, ça pose des questions. Et c'est vrai que c'est un peu mon seul bémol du film, c'est qu'il faut toujours prendre ça avec beaucoup de pincettes parce que la question d'esthétiser la violence, ici, a fortiori la violence conjugale, c'est évidemment, mais c'est très compliqué, mais c'est un sujet très large. Si on décide d'y adhérer là dans ce film, je trouve que c'est assez malin tout ce que tu disais sur la manière de détourner des paroles de chansons romantiques assez banales et qui deviennent glaçantes parce que en fait tu vois que ce qui sont des poncifs amoureux et romantiques sont en fait aussi imprégnés de codes de l'emprise et de la possession et ça j'ai trouvé ça assez fort et globalement je trouve que voilà c'est un film qui reste assez grave et qui est très chargé mais qui en même temps aussi par la fin qui est quand même très réjouissante et il y a quand même enfin il se donne le droit d'implanter de la légèreté, de la poésie et puis beaucoup d'humour quoi, il y a vraiment des trucs qui sont très drôles. J'ai noté des trucs la scène du déjeuner, la scène de la veillée funéraire et qui sont pas tant drôles pour ces espèces de pour ce traitement des violences conjugales que pour juste la comédie de mœurs qui est représentée avec des personnages masculins qui sont complètement cons, genre la scène où il y a un mec qui l'emmerde pendant qu'elle est en train de parler avec ses voisines et elle prend un ballon, elle le lance en l'air en disant « ballon » et le mec se barre courir après, c'est hyper drôle.
Oui, ça, c'est trop
drôle. Et il y a plein de moments comme ça où je trouve que ça fait aussi du bien je trouve que le film est assez fort parce que c'est effectivement très risqué. Et c'est quand même, ne serait-ce que pour ça, un parti pris audacieux qui propose quand même quelque chose d'assez radical et qui est, sur un truc très casse-gueule, plutôt bien maîtrisé, j'ai trouvé. Voilà.
Moi, je vous rejoins pour la scène de danse, sachant que je trouve qu'il faut quand même préciser que cette bande-son, elle est particulièrement bien choisie et qu'il y a un très très beau mélange. Mais là où je trouve que ça n'allait pas jusqu'au bout, c'était par exemple quand il y a eu cette espèce d'esquisse des coups, des traces de blessures qui s'effacent à moitié, on sait pas trop comment, pourquoi. Enfin, ça m'a un peu perdue et j'ai pas. Enfin, là, par exemple, j'aurais bien aimé que ça aille. Enfin, qu'il y ait un parti pris un peu plus marqué à ce moment-là, par exemple. Ou même que la scène de danse, limite qu'elle dure un peu plus longtemps, finalement. Parce qu'encore une fois, je trouvais qu'on avait à peine eu le temps de. Enfin, qu'elle s'instaure, que ça y est, elle avait de nouveau disparu. Et moi, c'est un peu plus ça qui m'a dérangée plutôt que. Ouais, enfin c'était ce côté très on tente et en fait au moment où ça commence à prendre et ben hop on repart dans la comédie de mœurs très sympathique à regarder mais qui du coup perd un petit peu en profondeur je trouve.
Ouais, je vois ce que tu veux dire et je suis assez d'accord mais comment dire, le film est le meilleur quand, comme tu le disais Nathan, il fait des choix un peu radicaux, vraiment. Et je trouve que ça, c'est plus le cas dans la deuxième partie, à partir de la scène du repas, en fait, je dirais, qui est à la fois drôle et c'est un moment de tension. Ouais, n'ai pas respiré et elle est vraiment super longue en plus. Ouais. Et puis, elle se finit quand même mal, quoi. Et finalement, ouais, cette caricature, elle peut être critiquable. Par moment, mais elle peut aussi être tout à fait féconde, et donc là, c'est là que ça marche bien dans cet esprit italien un peu farcesque aussi, un peu humour noir en fait, avec par exemple les disputes entre les femmes qui pèlent les patates dans la cour de l'immeuble ou donc ce repas. Et voilà, à partir du moment où le film décide, je trouve, de faire des choix radicaux, où il vire en fait aussi plus franchement au drame, et où le scénario comme les personnages vont se radicaliser. J'ai été plus pris. Il y a notamment un choix qui est fait à un moment par Delia auquel je m'attendais absolument pas. Je sais pas si, enfin, je vais peut-être pas trop le dire si vous l'avez pas vu, mais qui lui confère tout à coup vraiment une agency, une agentivité, et finalement elle ne fait pas rien, comme lui dit à un moment sa fille, et comme le début du film pouvait en fait plus ou moins le laisser sous-entendre, dans la mesure où on comprend que c'est un quotidien dans lequel elle est quand même continuellement prise, et puis en fait petit à petit on découvre que ben non, elle ne fait pas rien du tout. Mais donc quand il y a ce moment-là, bon bah on relie en fait tous les silences, tout ce qu'elle a opposé à la violence, et finalement c'est pas mal que le film ne fonctionne pas que sur la parole, parce que en vrai j'avais un peu peur du didactisme quand j'ai vu, ouais, enfin en Italie vraiment il y a des mouvements généraux d'envoi des classes d'école voir ce film, donc ouais, mais finalement les sabots ne sont pas du tout aussi gros que ça.
Mais justement, j'avais une remarque juste à faire à ce qu'avait dit Claire juste avant. Ouais. Mais par rapport au fait que la scène de danse soit pas trop longue, voire pour toi soit trop courte, moi je trouvais ça bien parce que justement on tombait pas dans une sorte de voyeurisme, on est un peu fasciné par cette violence. Et je trouvais que c'était pas forcément nécessaire qu'on voit les marques de strangulation de façon pérenne. Enfin, je veux dire, ça suffit pour comprendre. Et de toute façon, après, quand elle voit sa copine après sur le marché, elle les a, les marques, c'est juste. Elles sont cachées par ses habits. Et ensuite, par rapport au fait que ce soit pas didactique, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que je trouve qu'en fait, tout est dans dans les non-dits. Enfin, par exemple, on voit par exemple, la fille de Delia, Marcella, enfin, je ne sais pas comment ça se prononce, qui critique tout le temps sa mère, qui lui dit que bah, c'est justement ses mères courage, parce que même quand elle brûle ses pommes de terre, elle va dire que... Enfin, quand sa fille brûle les pommes de terre, elle dit que c'est elle qui les a brûlées. Enfin, voilà. Elle lui fait plein de reproches, et au final, on se rend compte qu'elle reproduit le schéma de sa mère et qu'elle est complètement... elle-même aveuglée par l'amour, et puisqu'on voit justement que son fiancé reproduit aussi les mêmes schémas qu'a le père de Martial. C'est très clair, parce que j'ai tout croisé, mais... et en fait, j'ai trouvé ça assez subtil, la façon de montrer que même en étant lucide, on peut se faire avoir par les mécanismes justement du patriarcat.
Ouais,
voilà.
Non, c'est vrai.
Ouais, je suis très d'accord sur ça, même quand Marcella, elle dit à plusieurs reprises, elle passe le film à critiquer sa mère, à lui reprocher les choix qu'elle fait, ou qu'elle a fait, elle lui dit à un moment vers le début du film, je préfère mourir que finir comme toi, et puis finalement, effectivement, tu sens que c'est pas aussi simple que ça, et je pense que c'est aussi servi par le jeu des acteurs qui sont tous impeccables, vraiment, et alors mention spéciale pour le père du fiancé qui s'appelle Monsieur Moretti et qui est le sosie d'Éric Dupont-Moretti.
Mais ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Donc voilà, mais globalement c'est hyper bien joué, et c'est aussi grâce à ça que je trouve que ça reste très fin et très très intelligent à plein de points de vue, et voilà.
En plus, ce que j'ai trouvé bien, c'est que ça, enfin, on voyait cette violence dans tous les milieux sociaux. Enfin, c'était vraiment pas dans la famille ou la misère, qui est dans une situation de misère. C'est dans cette famille-là qu'il va y avoir la violence spécialement.
Oui,
c'est juste qu'elle se manifeste sous d'autres formes dans les autres classes.
Oui, complètement.
Sociales.
C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure en parlant de pas de voyeurisme justement, ni de, enfin qu'il n'y a pas de voyeurisme, et du fait que le patriarcat s'immisce dans toutes les structures familiales, c'est que le propos politique du film, il est vraiment très intelligent. Il ne s'arrête pas juste à dire effectivement, c'est chez les pauvres. Il montre très intelligemment ce qu'est le patriarcat. C'est aussi les pères, les beaux-pères, les frères qui entretiennent entre eux une masculinité toxique. Ils sont odieux, ces gamins, d'ailleurs. mais vraiment, tu n'as aucune pitié à les laisser seuls. Enfin, je veux dire, tu peux comprendre l'envie par moment du personnage de juste partir.
Tu peux apprendre fils de pute en italien, quoi.
Exactement, entre autres. mais je veux dire, donc il y a tout ça. Il y a la négociation de liens d'emprise divers et de renégociation continuelle, comme tu le disais, Laura. Et puis... sans spoiler, même si c'est un peu dur, mais je pense qu'il est important de le dire, la solution finale du film, elle passe pas par un homme. Ce qui se passe à la fin, ça redonne au film, et c'est là que j'ai trouvé, en fait, je me suis dit, mais en fait, bon, faudra que je le revoie pour le repenser à la lueur de cette fin qui est vraiment extrêmement fine, intelligente. La solution, voilà, elle est politique, c'est même pas partisan de la part de la réalisatrice, puisqu'on ne dit pas tout, mais enfin, c'est dans l'ensemble politique, c'est le choix de la communauté plutôt qu'une fuite en avant individualiste, avec un petit élan lyrique à la dernière scène qui est très bien, franchement. Et puis finalement, ce qui est très intéressant, c'est que ce qui va valoir pour le pays va valoir aussi pour le personnage dans un vrai choix d'indépendance et de rentrer dans l'histoire. Et donc ça, finalement, c'est ce qui me fait vraiment me dire qu'en fait, oui, le film est quand même vraiment très très bon. En plus d'être, comme tu disais au début de l'émission, du débat, Nathan, un hommage réussi au néo-réalisme italien. J'ai vu qu'il était tourné dans les décors de Cinecittà, où étaient tournés les films de Rossellini, et entre autres. Donc la cour d'immeuble, les ruines en fait, de Rome, tout ça, c'est réussi. Malgré, et c'est ça qui, moi, au début, me faisait vraiment pas être trop en adhésion avec le film, c'est quelques poncifs. C'est-à-dire que toute la séquence introductive, enfin, j'ai trouvé, semble vraiment là pour te dire « Haha, regarde-les, ils sont pauvres ». Et c'est parfois un peu trop, je trouve, dans la façon dont ils souffrent un peu des affres de la reconstitution et de la comparaison aussi avec des films où c'était vraiment les milieux sociaux qui sont dépeints ici, qui jouaient leur rôle. Genre typiquement, si on prend Mamma Roma de Pasolini, on était vraiment avec le lumpen prolétariat, et ici c'est plus effectivement la mère Courage, les traits marqués par, et parfois c'était presque l'impression qu'elle est maquillée fatiguée, salie, et pour faire d'elle aussi un peu une figure quasi christique, un peu gênante par moments. Enfin, il y a beaucoup de plans d'elle à mi-hauteur où elle est au centre de l'image pour en faire une icône comme sur l'affiche. Et donc voilà, elle sourit quasiment jamais, ce qui se comprend évidemment, mais qui, à force de forcer le trait, sombre dans le mauvais côté de la caricature par rapport à ce que je disais avant, avec notamment le long travelling au ralenti, et donc le ralenti qui est pour moi l'équivalent des fondus au noir pour toi, Nathan, et un long travelling qui est même assez inutile dans les faits pour autre chose que de la contextualisation dans un effort qui semble un peu vain, avant la fin à nouveau en tout cas. Puis tout l'arc narratif avec le soldat, je le trouve vraiment pas bon, voire embarrassant par moments. Leur première rencontre, c'est...
Avec le chocolat,
c'est ça.
C'est très bizarre.
Oui, mais vraiment,
moi, je trouvais ça un peu drôle.
Oh my god, it's my picture. Elle était à 3 mètres devant lui.
D'accord.
Et c'était l'impression qu'il lui a sauvé la vie, quoi. Donc,
Mais le petit quiproquo sur le prénom, je le trouvais...
Ouais, ça
oui, ça, c'est rigolo. Sourire, ça fait partie des éléments de comédie un peu fun.
Puis le chocolat, c'était pas anodin après.
Oui.
Mais c'est un peu artificiel, ouais.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon.
Oui, ça fait un peu Deus Ex Machina, genre, pour après à quoi il sert. Mais,
Deus Machina.
Mais, oh, drôle oh, très fort, vraiment.
Voilà.
Mais, ouais.
Mais, qu'est-ce que... Ouais, non, moi, je trouve que, ben, pour revenir un petit peu sur la fin, là, ça ne divulgage rien en soi, mais il y a, un choix final, plutôt que de carton un peu moralisateur, comme il peut y en avoir par moment, et on en parlait la semaine dernière pour le film de Sévigné, c'est qu'il fait le choix... Il y en a quelques-uns, mais c'est plutôt le choix de la diffusion d'archives de La Luce, qui est donc l'INA italien. Et en fait, ces archives, quand elles te montrent la réalité historique et sociale derrière tout ce que le film t'a montré, la partie positive de cette réalité, j'entends, en fait, ça t'en sort aussi, et c'est peut-être ça qui fait que le film ne te déprime pas complètement. Ça te déprime quand tu y repenses, mais quand t'en sors, c'est pas du tout... c'est quelque chose qui, comme j'aime le dire, donne le smile. Ce sont... Voilà, ces vidéos-là. Bon, je peux pas dire le contenu, parce que ça dit les 10 dernières minutes, donc c'est un peu dommage. Mais ça explique le titre aussi, ouais, donc c'est vachement bien pensé et fait, je trouve.
Moi, je me suis juste dit, je trouvais que c'était une happy end, c'était super et tout ça, mais en fait, je me suis dit, ok, mais quand elle va rentrer chez elle, qu'est-ce qui va se passer?
Bah ouais, c'est
et
ça.
Je me suis dit,
c'est aussi,
un peu la question, enfin, même pour encore aujourd'hui, qui se pose. Genre,
Mais je trouve que justement, ça déjoue le piège du pur happy end.
Parce que la fin est quand même très, 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 très belle.
Oui, la fin est très, très belle, mais ça invite effectivement là où la spectatrice à se poser la question que tu poses. Et après, quoi. Et là, c'est là que le film devient actuel aussi, je pense.
Ouais, oui, oui.
Et c'est là que les sons aussi un peu plus modernes étaient intéressants, je trouve. Parce que, justement, ça empêchait de tomber complètement dans le film historique de mœurs, tout ça.
Ouais.
Et que là, justement, on avait vraiment quelque chose de bien construit, de très réfléchi, pour arriver à cette fin-là qui est amenée plus ou moins bien, mais qui est là. Et que ça se termine sur cette espèce de demi-teinte, finalement, entre... Bah, tout l'espoir qu'il y a eu à un moment et finalement la réalité, et je pense que c'est aussi pour ça que ça a aussi bien marché en Italie, parce qu'il y avait aussi cet effet de ombre-lumière finalement avec la réalité de l'assassinat récent.
Ouais.
C'est vrai.
Et non, mais c'est vrai que par contre, les musiques sont hyper bien choisies, je trouve, pour tout le film. Enfin, vous l'avez déjà.
Mais c'est amusant de mettre des musiques aussi modernes avec du noir et blanc.
Oui, c'est vrai que c'est, mais c'est complètement déroutant.
Au début, ça m'a fait bizarre.
C'est vraiment pas mal, la scène
après,
où elle
on
court.
Se dit, en fait, ça pourrait arriver aujourd'hui, quoi, juste dans un autre contexte.
Oui, historique, vraiment, c'est ça. Mais ouais, et puis c'est ça. Ou bien comme contrepoint, comme tu le disais, Laura, pendant la scène donc, du tango, entre guillemets. Ou bien plus tard, quand avec une chanson. Perdoniamoci, décidément. donc, pardonnons-nous, qui est ce que tu disais plutôt, Nathan, c'est-à-dire juste dévoiler les mécanismes d'emprise. Bref. Et donc, ou bien en contrepoint, ou bien en illustration, ça, c'est à chaque fois des démonstrations et quelque chose se joue, c'est jamais gratuit, quoi.
Ouais, et puis ça casse en plus le côté un peu telenovela qui peut y avoir un peu parfois. Ça apporte un peu de légèreté. Enfin, c'est juste bien.
Moi, il y a une scène qui me fait super rire. C'est la scène avec son. On peut peut-être dire amant, je sais pas trop, parce que y a
son
pas
ex.
Son ex, ouais.
Ouais, vraiment.
Où il mange du chocolat. Cette scène m'a fait extrêmement rire, parce qu'elle reprend les codes du vieux, de la vieille scène à l'eau de rose, quoi. Enfin, où ils se regardent avec un plan travelling qui est circulaire, etc. Et en fait, ils mangent juste du chocolat, ils en ont plein les dents. Et je trouve ça vraiment hilarant.
Avec le mec derrière qui.
Oui. Mais voilà.
Je sais pas, cette scène, j'ai trouvé extra.
Mais oui, elle était super drôle. Et en même temps, moi, je sais que c'était au tout début du film. C'est au tout début du film. Et c'est là que. Enfin, ça faisait partie du moment où, en fait, je pense aussi que c'est moi qui. N'ai pas été assez intelligent avec le film, où j'étais en mode ah, faut-il que je ris ou est-ce que le film est une comédie ou est-ce qu'il veut juste me mettre mal ? En fait, il fait les deux, et c'est ça qui, a posteriori et en vous entendant parler, me fait quand même un peu changer mon avis.
Après,
c'est
moi,
que...
je le ris facilement.
Oui, mais moi aussi. d'où en plus, mais... enfin, j'étais très. Enfin, je voulais volontiers rire, mais il fallait que. Quand même, j'ai des raisons. Et donc, mais donc, en fait, c'est aussi la force du film de. D'être dans cette ambiguïté là, quoi, mais bon, bien, et eh bien il reste encore demain. C'est un film en salle depuis 2 semaines qui effectue un très bon démarrage, puisqu'il a terminé sa première semaine en France à la 3e place du box office avec 118 000 entrées, ce qui n'est tout de même pas mal. Donc, bon, dans l'ensemble, voilà, c'est on vous le conseille, et il vous reste encore demain et plusieurs semaines pour le voir. Ouais.
Facile.
Très facile, très facile. C'était pas la peine, hein, moi,
de rire avec des raisons.
Bah, super. Et avant de conclure l'émission, nous vous donnerons nos conseils. On commence avec toi, Claire.
Donc moi, je vais vous conseiller Marius et Jeannette de Robert Guédiguian, qui est disponible là sur Arte encore un bon moment. Et en fait, c'était un peu le même principe de cette histoire d'une famille qu'on suit. C'est même plutôt un groupe finalement de voisins avec plein de bons acteurs dans un quartier pauvre de Marseille. Et en fait, donc, bah, comme pour Il reste encore demain, il y a tout un travail sur ce côté un peu monotone de la vie quotidienne, avec bah, justement comment rythmer en fait cette... Bah, tout en montrant ce ressassement, etc. Avec des personnages qui sont très touchants et avec toujours une pointe d'humour et puis le soleil de Marseille qui fait toujours plaisir.
Merci beaucoup, Nathan.
Alors moi, je vais conseiller un film que j'ai pas encore vu, mais qui est sorti là, qui soit va sortir, soit il est sorti il y a genre quelques jours, et qui est un premier film aussi, qui s'appelle Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Le titre est très bien, l'affiche est très belle, il a eu un gros succès c'était à Berlin ou Venise, je ne sais plus où il était présenté. Et ça a l'air super bien, donc moi j'ai très hâte d'aller le voir. Et je pense que, même sans l'avoir vu, c'est un bon conseil. Et je reviendrai peut-être dessus si je l'apprécie comme j'attends de l'apprécier.
Voilà. Très bien, tu nous piches un peu
Je ne connais même pas le synopsis. En fait.
Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment...
Non, c'est vraiment juste, j'ai vu l'affiche.
Après, le titre est effectivement clair.
Ouais.
Enfin, si c'est...
Ouais, il y a pas de attends.
Non, mais
c'est un film de vampire quoi. C'est un film de vampire et du coup ça m'intrigue et je sais pas trop comment ça va enfin ce que ça va donner, mais en tout cas ne serait-ce que pour la curiosité et pour le fait que ça a l'air bien, j'y vais. Voilà.
Et ben super. De nouveau le renouveau de films de genre francophone
ouais.
qu'on a déjà observé depuis quelques années, et le conseil de Laura.
Moi, je vous conseille de regarder Les Roseaux Sauvages de André Téchiné. C'est un un film qui date, c'est un film qui date, et qui parle de quatre adolescents, au début des années 60, pendant la guerre d'Algérie, qui passent leur bac au bord de la Garonne, et c'est un film assez, assez contemplatif, qui fait du bien en ce moment, je trouve. Il y a beaucoup de soleil aussi.
Bah super, merci beaucoup. Enfin, mon conseil à moi, il y a aussi du soleil, puisque c'est le soleil de l'Ouest américain, puisque je vais faire, comme souvent, la promo gratuite de l'Institut Lumière, qui a sûrement besoin de moi, l'Institut Lumière qui commence donc une nouvelle rétrospective saisonnière consacrée ce printemps au cinéaste américain Anthony Mann, que je ne connais pas vraiment plus que vous, certes, enfin peut-être que vous êtes spécialiste d'Anthony Mann et que je dis n'importe quoi, mais précisément, c'est l'occasion de faire la rencontre et la connaissance de ce cinéaste de l'Ouest américain, voir comment le mythe de l'Ouest fut construit, comment il fut déconstruit aussi, et rentrer dans ses paysages, dans ce soleil, dans la grande et belle salle du hangar du premier film. Et puis, si vous êtes comme moi, amateur ou amatrice de la classe américaine, c'est la plupart des films où James Stewart a tourné en cow-boy sont tournés par Anthony Mann. Voilà, le personnage qui, dans la classe américaine, dit « yep » pour dire « yep » et a hâte d'aller manger dans une bonne auberge. Absolument. Donc, que ce soit au premier ou au second degré, allez-y. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les trois, Claire, Nathan et Laura, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On ne se retrouve pas la semaine prochaine, car le lundi premier est férié et qu'il y a un petit creux de toute façon dans les sorties en ce moment. Donc notre prochain rendez-vous, il est le 10 avril, à la fois parce que ce sera jour de sortie régulier pour le comptoir, on parlera de Kung Fu Panda 4, comptoir que nous aurons donc enregistré l'avant-veille, et puis parce que ce sera aussi le 10 avril qu'on sera en direct et en public au Théâtre Cantor de l'ENS de Lyon à 20h dans le cadre de l'annuelle journée de la radio sur Transistor. Le thème étant sport et radio, nous reparlerons donc de films de sport avec Lucie Lambert, Nathan et Claire. Voilà, j'espère que vous avez hâte. Nous, on a hâte. Vous avez hâte ?
Oui, on a hâte.
Carrément.
Très bien. Eh bien, tout le monde a hâte. L'épisode normal sera comme disponible, comme d'habitude, la journée est longue, nous ne sommes que lundi. Comme d'habitude, ce sera donc disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. Le direct Journée de la Radio sera, lui, sur YouTube et sur journeedelaradio.fr, voilà, sans accent à journée. C'est simple, et stay tuned. Comme on dit, il nous tarde de vous rencontrer en vrai, si vous voulez venir. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous, et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Vive le cinéma et vive Transistor.